Je suis enchanté d'être pour la première fois à Jumenos et de vous raconter un peu de choses que je fais à temps perdu. Parce que, évidemment, ça n'a rien à voir ou pas trop à voir avec la physique, mais ça m'amuse. Le sujet de ce soir fait partie d'une série assez plus nourrie qui parle des origines de la science. Et comme c'est trop long pour le faire ici, parce que ce sera un cycle, on a extrait un sujet qu'on peut traiter quand même indépendamment. Et le sujet est les cartes et les navires de l'Antiquité, les cartes et les bateaux de l'Antiquité. Alors, avant de parler de cartes, je vais vous parler rapidement d'explorateurs, parce qu'évidemment, on ne peut pas faire des cartes géographiques sans avoir été avant repérer les lieux. Deuxièmement, il y aura peut-être à la fin une petite appendice, si on a le temps. Et là, je vous montrerai qu'est-ce qu'on peut faire sur l'histoire quand on a l'approche d'un physicien, c'est-à-dire une approche scientifique. Donc, on va commencer notre sujet. Ici, vous ne verrez rien parce que c'est trop confus, mais c'est juste pour vous dire, quand on parle de cartes et navires de l'Antiquité, il faudrait déjà qu'on commence à définir qu'est-ce qu'on entend par Antiquité, c'est-à-dire où et quand. Alors, où, c'est la Méditerranée, parce que c'est la région qu'on connaît le mieux, et c'est là où il y avait au moins trois peuples de grands navigateurs. C'est-à-dire les Grecs d'un côté, les Phéniciens de l'autre, et les Étrusques, qui étaient les rivaux d'ailleurs des Grecs de Marseille, pendant quelques siècles. En brun clair, vous voyez la partie occupée par les Phéniciens, donc la Sardaigne, la Sicile, la partie ouest de la Sicile. Alors qu'en brun plus foncé, vous avez le territoire et les colonies grecques. Cette partie-là, c'était le monde d'Homère. Au temps d'Homère, on connaissait pas plus que ça. Maintenant, ceci pour la zone géographique. Hein. Évidemment, on sortait de temps à autre du détroit de Gibraltar, on essayait d'explorer un peu la mer Rouge, mais ensemble, les choses se passaient essentiellement dans la Méditerranée. Point de vue époque, je fais un schéma très simple. J'ai pris la civilisation grecque et je l'ai divisée en trois périodes égales, c'est-à-dire la Grèce classique de 600 à 300 avant Jésus-Christ, ce qu'on appelle l'hellénisme, qui est moins connu, qui va de la mort d'Alexandre le Grand à peu près à la naissance de Jésus, et 300 ans sous l'Empire romain, où les gens qui parlaient grec et qui avaient une culture grecque ont quand même continué à le faire. Ils ne se sont pas immédiatement retournés au latin. Dans chaque période, j'ai mis quelques noms. On va pas s'en occuper trop, mais c'est juste pour vous montrer que ici, on a plutôt des philosophes. Ah, il est vrai que les premiers philosophes, comme Thalès, Pythagore, etc., voyageaient beaucoup. Donc, avant même de commencer à philosopher, ils allaient explorer les autres pays pour voir qu'est-ce que les gens faisaient et pensaient ailleurs. Mais ça restait des philosophes, c'est-à-dire ils ne faisaient pas de théories scientifiques. En revanche, dans la période hellénistique, au musée d'Alexandrie, musée donc c'est la maison des muses, c'est-à-dire la maison des arts et des sciences, c'était une université en bonne et due forme, et ces gens-là sont tous des scientifiques de très haut niveau même aujourd'hui. Après la conquête, ici c'est la conquête romaine du monde grec, et après cette conquête, nous le verrons après, les choses se détériorent. Il y a pour notre chance, on a encore deux bons scientifiques ici qui nous ont transmis l'astronomie et la médecine. Et pour le reste, il n'y a pas grand-chose. Théon d'Alexandrie, c'était le père d'Hypatie. Il nous a transmis les textes d'Archimède et d'Euclide. Hypatie, sa fille, a été lynchée par des chrétiens fanatisés par le patriarche Cyril. Il ne s'appelait pas Ayatollah, mais c'était tout comme à l'époque, vous voyez. Pourquoi je mentionne ce nom? On essaiera de vérifier quand on regardera les cartes si vraiment il y a quand même dans cette période-là une approche et une qualité plus scientifique par rapport aux périodes précédentes et suivantes. Voici nos explorateurs. 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire moins 600, Aristéas, il fait un chemin à peu près sur la route de la soie et il arrive au pied de l'Hindou Kush. En 600 avant Jésus-Christ, le pharaon Nécaon, que vous retrouverez dans l'histoire du canal de Suez, parce que c'est lui qui avait essayé d'excaver le canal de Suez, ayant peu réussi, il a envoyé une flottille de Phéniciens explorer la côte est de l'Afrique. Cilax de Cariande, il a été envoyé par Darius de Perse. Ici, si la carte continuait, on aurait l'Inde, on aurait la rivière Indus. Donc lui, il a descendu la rivière et puis il est rentré sur ce chemin-ci. Donc on connaissait déjà la possibilité de naviguer. À ce moment-là, on a compris qu'on pouvait naviguer jusqu'en Inde en sortant par la mer Rouge. Hannon de Carthage, c'est un admiral, aussi phénicien, qui a navigué le long de la côte africaine et on pense qu'il est arrivé jusqu'au Cameroun. Quant à Sataspès, il a fait la même chose, mais sans malgré, si on peut dire, parce que Sataspès était le fils de Darius de Perse, donc il était le cousin de Xerxès, qu'on retrouvera tout à l'heure. Et il avait violé la fille d'un grand général. Donc ceci n'étant pas admissible, son cousin Xerxès aurait dû le condamner à mort. Et la mère de cette espèce est allée le supplier en lui disant, écoute, condamne-le à quelque chose de presque d'impossible, mais ne le tue pas. Et alors cette espèce a été condamnée par son cousin à faire le tour de l'Afrique. Il a pris des navires, il a fait ce trajet en bleu. Et puis arrivé là, soit il n'a pas pu continuer parce qu'il n'y avait pas de vent, il n'y avait rien à manger, il n'y a personne sur la côte, etc. Donc il est revenu en arrière en disant, moi j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai bien traité les gens que j'ai rencontrés, il a ramené un noir avec lui, hein, mais il a été tué quand même. On avance dans le temps, donc vous voyez, on est passé de 600-500 avant Jésus-Christ, on commence à s'approcher. Démocrite d'Abdère, c'est un philosophe, il a visité l'Égypte jusqu'à assez haut, le long du cours du Nil. Pythéas, bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire de Pythéas, tout le monde le connaît, il est d'une façon ou d'une autre, il est arrivé ici. Et il a exploré la mer du Nord, l'Irlande, etc. Je n'ai pas dans cette liste un autre explorateur marseillais qui, lui, a fait ce trajet-là à peu près. En 260 avant Jésus-Christ, Ptolémée II, donc ça c'est déjà la dynastie de Ptolémée en Égypte, qui commence à la mort d'Alexandre le Grand, en 323 et se termine 300 ans après avec la mort de Cléopâtre. Cléopâtre était une Cléopâtre secte, et elle était une grecque pure sang de la dynastie de Ptolémée. À part les routes maritimes, il y avait des routes marchandes, donc la route de l'étain, peut-être la route de l'argent, je ne sais pas, et la route de l'ébène, de l'or et des esclaves noirs. Conclusion, arriver à peu près au IIIe siècle avant Jésus-Christ, on connaissait quand même tout ça, qui n'est pas négligeable. Et donc, on doit les retrouver dans nos cartes. Sauf que naturellement, maintenant, on refait un saut en arrière, on remonte à nouveau au VIe siècle avant Jésus-Christ. À ce moment-là, on connaissait à peu près le monde habité, seulement les Grecs pensaient que la Terre était un disque plat qui flottait sur la mer, et que cette mer entourait complètement la Terre, et cette partie-là était appelée océan. Donc, vous voyez, ils pensaient que la mer Caspienne était un golfe de l'océan. Ici, tout autour, c'est l'océan. Mais ils avaient quand même une notion, de l'étendue de l'Europe, des grandes rivières, des rivières importantes. Quant à la taille de l'Afrique, personne ne la connaissait à l'époque. Donc, ils ont essayé plusieurs fois de la naviguer autour, mais sans grand succès. Hérodote d'Halicarnasse, c'est le père de l'histoire. Mais il était aussi géographe. Donc lui, il visitait le pays, il récoltait toutes les informations qu'il pouvait avoir, et puis il décrivait les pays et les habitudes. Et on a à peu près la même carte, mais déjà avec plus de détails. Par exemple, ici, j'espère que alors, on va faire comme ça. Ici, vous voyez, on a déjà l'Inde, avec l'Indus, etc., des détails qu'on n'avait pas sur les cartes précédentes. La mer Caspienne est un lac fermé maintenant. Dicéarque de 300 avant Jésus-Christ, c'est le premier géographe, le premier vrai géographe. Il n'était ni philosophe ni historien. Et il a eu l'idée, à l'époque on avait observé, que si on prenait on faisait une navigation en gardant les parallèles, c'est-à-dire en observant, en gardant toujours la même hauteur du soleil à midi, on avait une ligne, un parallèle qui passait par le détroit de Gibraltar et arrivait à Rhodes. Donc, on a fait un parallèle. Et puis, on a mis un méridien qui passait évidemment par Milet où ces gens travaillaient. Ératosthène de Sienne. Alors là, on est rentré dans l'époque scientifique. Ératosthène était, bon, il a mesuré la Terre, tout le monde le sait, mais il était vraiment un grand scientifique. Vous voyez qu'il était appelé le deuxième, parce qu'il était le deuxième meilleur poète, le deuxième meilleur historien, le deuxième meilleur mathématicien, le deuxième meilleur géographe, etc. Alors, la nouveauté introduite par Ératosthène, à part la détermination des dimensions de la Terre, qu'on verra peut-être à la fin, c'est l'utilisation de méridiens et parallèles, en tout cas bien espacés d'une façon uniforme dans la partie plus connue du monde. Et sur ce substrat, il a appris aux gens à mesurer latitude et longitude dans toutes les villes principales, si bien que dans sa géographie, qui a été après reprise par Ptolémée, on a les coordonnées de 600 lieux significatifs. Donc, même sans les cartes de l'époque, on peut reconstruire la géographie de l'époque. Cratès de Malos. Ici, nous avons un globe pour la première fois. Et non seulement on a un globe, mais étant donné que on connaissait les dimensions de la Terre et on connaissait à peu près les dimensions de l'Europe et de l'Asie, il était assez évident que ça ne pouvait pas remplir la Terre entière. Et donc, ils en ont déduit qu'il devait exister des autres continents qu'ils ont inventés. Ils ont mis un continent de Périéchi, c'est-à-dire de nos voisins d'en haut, et puis les antipodes, c'est-à-dire ceux qui sont avec les pieds en haut, et les Antoéchi, c'est nos voisins, mais d'en bas, si vous voulez. On a déjà presque l'Amérique. Posidonius était aussi un grand scientifique, c'est lui qui a été le maître de Cicéron et de Pompée, à Rhodes. Et on a un dessin de cette sorte, si vous voulez, parce que dans un texte d'astronomie antique, il était écrit que la Terre tournait autour du Soleil comme un caillou dans une fronde. Donc lui, il a pensé bien de dessiner la Terre et après il a transformé en une fronde. Il y a les îles britanniques, il y a à peu près tout ce qu'il faut. Strabon, autre écrivain géographe, vous voyez, ici, il y a même l'île au sud de l'Inde, Ceylan ou je sais pas. Et il y a toujours les méridiens parallèles repris tel quel. D'ailleurs, ce dessin, c'est celui de Ratosthène. Alors, Dionysius Périégètes, lui, c'était un poète qui a écrit un petit poème qui décrivait le monde. Et d'après ce poème, on pouvait tracer une carte de ce genre. On arrive à Ptolémée, donc deuxième siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire après l'invasion romaine, il y a eu quand même des études, des gens qui ont repris des études. Ça, on n'y voit pas grand-chose parce que c'est une reproduction, mais si on prend des autres dessins de la même carte, là par exemple, on commence à voir déjà la sophistication de ces données. C'est pas très reconnaissable, mais si on va regarder, on peut voir latitude et longitude de chaque endroit. Et en plus, je reviens une en arrière, Ptolémée, c'est le premier qui a l'idée d'utiliser des projections. C'est-à-dire, pour dessiner une carte correctement, il faudrait envelopper la Terre avec un papier. Et comme on ne peut pas le faire correctement, on peut prendre un papier en forme de cône ou des autres formes, mais c'est la première fois que les cartes ont l'aspect qu'elles ont aujourd'hui. C'est-à-dire une forme de trapèze. Cette carte-là, c'est la carte de Marcus Vipsanius Agrippa, qui était le bras droit et le gendre d'Auguste. C'est lui qui a combattu toutes les grandes batailles navales pour Auguste, c'est lui qui a construit le Panthéon pour la première fois, etc. Et donc c'était le technicien d'État. Vous voyez que par rapport aux cartes grecques, on comprend plus grand-chose. Donc ça vous donne une idée de l'idée qu'avaient les Romains du monde. J'ai pris la même carte et je l'ai tournée de 90 degrés, qu'on voit au moins l'Italie, la Grèce et les îles de l'Égée. C'est une carte éditée en 1500 en Allemagne, mais qui reproduit une carte romaine. Donc ça s'appelle Pottingeriana parce que le type qui l'a publié s'appelait Pottinger. Il a retrouvé une carte romaine qui était faite de 14 feuilles en accordéon, si vous voulez. Et c'était une carte qui décrivait les routes de l'Empire romain, qu'elles soient sur terre ou sur mer. Donc, ici, il y a un détail, et si on regarde vraiment bien, 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 je ne sais plus comment indiquer, on peut voir la Crète, par exemple, ici. Vous voyez? La Grèce, etc. Mais c'est tout complètement déformé, il n'y aurait plus aucune idée de proportion. Et ce n'était que le début de la fin, parce que ça, c'est une carte de 1300, qui est dans la cathédrale de Hereford, en Angleterre, et les Anglais en sont très fiers, parce qu'ils disent que c'est la plus belle, la plus parfaite des cartes médiévales disponibles à l'époque. Alors là, je n'ai même pas essayé de retrouver quoi que ce soit, parce que je n'ai pas réussi. Donc, vous voyez, dans les cartes, on retrouve à peu près ce que je vous avais annoncé au départ, c'est-à-dire, il y a eu une époque pré-scientifique, il y a eu une époque scientifique suivie d'un déclin qui commence à peu près au 3e siècle après Jésus-Christ et qui continue jusqu'à la Renaissance, pour ce qui concerne l'Europe. On va maintenant changer de sujet. C'est-à-dire, on quitte les cartes et on parle des navires. Et pour parler des navires, j'ai pris les navires qui étaient les plus importants pour notre histoire, c'est-à-dire les navires qu'ont utilisés les Grecs à la bataille de Salamine. Bon, je pense que tout le monde se rappelle de la bataille de Salamine, mais je vais vous la raconter peut-être d'une façon un peu spéciale. Déjà, je vous ferai remarquer que l'île de Salamine est très proche de la terre et pratiquement on accède au bras de mer qui la sépare de la terre par deux passes relativement étroites. Ce sera essentiel pour la stratégie de la bataille. Ici, on a une carte de l'Empire Perse en 500 avant Jésus-Christ. Les Grecs, je ne pense pas qu'ils aient eu une idée de la taille de leur adversaire. Autrement, ils n'auraient pas peut-être combattu. Cet empire comprenait l'Égypte, comprenait la Thrace, c'est-à-dire la partie nord de la mer Noire, et c'est à peu près la région qu'a conquis Alexandre le Grand 200 ans plus tard. Alors, l'histoire. En 510 avant Jésus-Christ, les colonies grecques de l'Asie mineure se révoltent contre la domination perse. Un émissaire se rend en Grèce, à Athènes et à Sparte pour demander de l'aide. Sparte, ils disent, bon, notre affaire, c'est loin, ça ne nous intéresse pas. Athènes envoie 20 navires en renfort et l'île de Lubé envoie 5 navires. La guerre dure 6-7 ans. Une fois que les rebelles ont été matés, les Perses se sont rappelés de l'aide fournis aux rebelles par Athènes, et donc ils ont décidé de châtier les villes grecques alors là on va avoir des problèmes sans pointeur. Il y a eu 3 expéditions. Je saute à la troisième parce que les deux premières, bon, la première a été complètement ratée. Ils sont partis d'ici avec une flotte, ils sont montés jusqu'à la Chalcidique, et là la flotte a été détruite par une tempête. C'était 492. 2 ans après, le gendre de Darius, qui s'appelait Mardonius, invente une autre tactique, c'est-à-dire qu'il prend le chemin de la côte, mais il se fait suivre avec une grosse armée et il se fait suivre par une flotte, tous les noms. Et ils se font arrêter à Marathon. Donc la bataille de Marathon en 490. Darius meurt quelques années après, mais son fils Xerxès, il n'a de cesse de planifier une autre expédition qui finalement devrait venger les Perses de toute cette déconfite et déconfiture. Et il prend le même chemin, c'est-à-dire il construit deux ponts de barque sur le détroit du Bosphore, avec des barrières pour pas que les animaux prennent peur de l'eau. Il passe toute son armée, il se rend personne ne s'oppose à son avancée. Il a même fait couper, il a même fait faire un canal dans l'isthme du mont Athos pour ne pas risquer à nouveau de perdre la flotte. Donc la flotte se rend suit l'armée et finalement on arrive au Thermopyles. Et là, l'histoire est très connue, c'est-à-dire que la passe est tellement étroite que l'armée grecque, avec relativement peu d'hommes, peut arrêter l'armée perse, qui perd quelque chose comme 10 ou 20 000 hommes. Mais les Perses arrivent à contourner, si vous voulez, cette barrière. En même temps, la flotte grecque arrêtait la flotte perse pour pas que elle arrive à prendre à rebours l'armée grecque. Donc, les Thermopyles tombent. Tout le monde connaît l'histoire des 300 Spartiates qui sont morts sur place, mais peu savent qu'il y avait aussi 700 citoyens d'une petite ville grecque qui, eux, n'étaient pas des soldats de métier et qui sont restés sur place, qui n'ont pas voulu partir. Donc, les morts ont été en réalité 1000. À ce moment-là, il n'y a plus rien pour arrêter l'armée perse. Les Spartiates décident de défendre le passage ici, le passage vers le Péloponnèse. Okay. Et l'armée perse déboule, ils détruisent Athènes, ils incendient, etc. Et la population d'Athènes est réfugiée sur l'île de Salamine. Nous voilà. Alors, faut savoir que lors d'une guerre, il n'y avait pas un seul commandant chez les Grecs. Ils étaient un jour l'un, un jour l'autre, etc. Donc, il y avait Thémistocle, l'Athénien, qui voulait combattre les Perses, et il voulait les combattre sur mer. Parce que dans l'intervalle entre l'expédition de 490 et celle de 480, il avait convaincu la ville à construire 200 trières pour renforcer la flotte. Donc il se sentait très fort sur mer. Quant aux les navires de Sparte et des autres villes n'avaient rien à faire, ils voulaient partir. Alors Thémistocle a envoyé un messager à Xerxès en disant ils veulent fuir. Et Xerxès a envoyé quelques navires bloquer la passe de sortie de l'autre côté, celle que je vous avais montrée au début. Donc à ce moment-là, les Grecs étaient acculés, la flotte grecque était acculée dans le détroit. Xerxès s'est fait installer un trône ici, là, vous voyez, et avec tout son état-major, etc., il attendait de profiter du spectacle de la bataille.